BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
On a une vague énorme de publications aujourd'hui sur les marchés. On va surfer les différentes annonces. C'est la plus intense session surf du monde. C'est chaque jour 15h30, 18h BFM Bourse. Oui, on surfe les nombreuses annonces. Il est sur la vague, Étienne Braque depuis la Tour Euronext. Rebonjour Étienne. Alors pour l'instant, publication porte pas le marché, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui, moins 1,7% pour le CAC 40. Alors Guillaume, j'ai dû aller très loin pour retrouver moins 1,7. C'était la dernière fois le 24 mai. Vous rendez-vous compte, on est peut-être en train de vivre la pire séance en l'espace de 11 mois à Paris. C'est pour dire, on avait perdu l'habitude de ces petits sell-off. 7957 points pour le CAC 40, quand Wall Street boit également la tasse à cause de Meta qui perd plus de 10%, Caterpillar moins 7. Ça pèse sur le Dow Jones, moins 1,7%, moins 1,8% également pour le Nasdaq. Dans l'ensemble, aujourd'hui, les publications déçoivent et c'est prétexte à quelques prises de bénéfices.
Effectivement, la vague de publications enfante d'un creux sur les marchés. On va en parler, bien sûr. Un petit coup de froid aussi sur l'IA avec Meta qui perd énormément de terrain à Wall Street. Et puis la croissance américaine qui ralentit. Elle ralentit. Ça y est, un peu plus qu'attendu. Alors, pas la consommation. Quand on regarde les composantes sous-jacentes, ça reste assez solide quand même. Enfin, le chiffre de la croissance globale qu'on attendait à 2,2% quand même pour le premier trimestre ressort à seulement 1,6%. On fera réagir Gilles Mouek. Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, il sera avec nous dans quelques minutes. Et puis, on parlera aussi des matières premières et du cuivre. Peut-être la naissance à venir d'un nouveau géant mondial du cuivre. C'est BHP qui propose de racheter Anglo American pour environ 39 milliards de dollars. Le nouvel ensemble, s'il voit le jour, pèserait à hauteur de 10% du marché mondial du cuivre. En fait, c'est pas énorme 10%. Ça veut dire que le marché resterait très morcelé et que donc, peut-être d'autres consolidations, d'autres rapprochements pourraient avoir lieu. On va aussi en parler avec nos experts. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Si vous avez raté la précédente demi-heure, on a vécu en direct l'ouverture du titre Meta sur le marché américain. Meta qui annonce des dépenses d'investissement finalement supérieures à ce qui avait été annoncé jusqu'ici pour l'intelligence artificielle. Dans un autre monde, les marchés auraient salué ça, auraient applaudi des trois mains. Mais aujourd'hui, Meta recule et recule pas qu'à moitié. Le titre Meta à Wall Street recule de plus de 12% parce qu'en même temps que le groupe va encore plus dépenser pour l'IA, eh bien le groupe éloigne la perspective de revenus importants issus de cette intelligence artificielle. Autrement dit, on dépense beaucoup pour des revenus qui sont amenés, ces revenus peut-être à décevoir à court et moyen terme. Dépenser plus pour gagner moins, ça déplaît au marché. Et Meta aujourd'hui recule. On en parlait avec Thierry Guy pour Raymond James France. C'était en direct. Le replay, ça y est, le replay est en ligne et disponible. Vous pouvez le consulter sur notre application BFM Business, d'autant que ce soir, c'est Microsoft qui va entrer en jeu et annoncera sa publication très attendue sur l'IA aussi Microsoft ce soir, tout comme Alphabet. Ici à Paris, alors on n'a pas d'IA, mais on a quand même beaucoup de publications et pour le coup, pour le CAC, c'est pas porteur effectivement. Le CAC, vous nous le disiez Étienne, est peut-être en train de vivre sa pire séance en quasiment un an aujourd'hui.
En effet, avec une baisse de 1,6% et les 8000 points qui sont à nouveau effacés, 7963 points, le tout avec du volume 1,8 milliard d'euros négociés dans le CAC 40, avec un PIB qui est ressorti inférieur aux attentes tout à l'heure aux États-Unis. Ça a eu pour conséquence de faire remonter le marché obligataire, 10 ans américain qui est sur des plus hauts de novembre dernier à 4,73. Le 2 ans de son côté retrouve la barre symbolique des 5%, donc ça fait pression. Meta qui déçoit, qui fait baisser Microsoft de 4%, vous avez moins 3 également sur la maison mère de Google, Alphabet. Alors Nvidia s'en sort, miraculeux, avec une hausse d'un peu plus d'1%, mais ça n'empêche quand même que vous avez une pause qui est en train de s'opérer à Wall Street. À Paris également, vous avez beaucoup de grosses pondérations qui ont publié leurs résultats. Avant Total demain matin et Airbus ce soir, Hermès est en recul très largement, moins 3,3%. Ça fait plonger LVMH qui perd 3% à 774 euros. Dassault Systèmes, moins 5%. La publication qui déçoit un petit peu sur la partie Medidata, sur la partie santé, le marché n'apprécie pas du tout. Marché qui est très exigeant aujourd'hui. Regardez ce qui se passe également sur Adyen. C'est une grosse boîte quand même. 40 milliards à Amsterdam, avec des marges qui se tassent un petit peu dans les transactions bancaires. Moins 18% aujourd'hui Adyen à Amsterdam. Vous avez également des titres qui reculent très sévèrement à Paris hors CAC 40. Et puis à l'inverse, quand vous avez des publications où le marché n'attendait pas grand-chose et où c'est en ligne avec les attentes ou légèrement supérieur, là ça rassure. Fnac Darty plus 5%. Verallia qui annonce une reprise des volumes plus 5% également. Et puis ST Microelectronics qui annonce ce matin dans son call qu'à un point bas peut-être être été touché dans le secteur des semi-conducteurs reprend 1,4% après avoir dévissé hier. Et donc une tendance négative aujourd'hui à la Bourse de Paris. 36 valeurs du CAC sont dans le rouge. Et tout ça, ça pèse bien sûr sur la tendance, avec donc un indice qui est quasiment sur les plus bas niveaux de la séance, moins 1,5% à moins d'une heure et demie du fixe.
Eric Blaine est avec nous, Swiss Life Banque Privée. Bonjour Eric.
Ravi
de vous retrouver Eric. On le disait, la vague de publication enfante un creux de marché aujourd'hui. C'est compliqué, là on est dans le creux, là on est le bateau secoué effectivement au milieu de toutes ces vagues, c'est difficile et on se trouve éclaboussé. Notre CAC perd plus d'un et demi pour cent. Qu'est-ce qui
moins de croissance, plus d'inflation.
La question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui explique quand même qu'on se trouve à ce point éclaboussé? Les publications sont pas horribles non plus. Pourquoi
non,
le marché recule-t-il?
Les guidance sont confirmés, les chiffres sont bons. Aujourd'hui, les publications sont bonnes. Même dans le cadre d'Assos System, franchement, je regardais le communiqué financier, il est bien. Donc, c'est juste que on change un peu d'attitude. On a l'impression qu'il y a des profits à prendre. On est assez haut sur les marchés. Et puis, c'est clair que les taux longs remontent encore aux États-Unis, l'inflation étant là. Et puis, maintenant, l'économie ralentissant, on ne sait plus gridlock. C'est attention, dégageons un petit peu et prenons quelques profits. C'est un peu ça.
Oui, Hermès, par exemple. Quand même, alors, on n'a pas l'IA en France, mais on a la désirabilité. Hermès, c'est une belle publication. Pourtant, le titre recule nettement.
Ouais, c'est magnifique. Honnêtement, ce qu'a publié Hermès, c'est quand même vraiment indiscutablement spectaculaire. Ils sont sur une croissance de chiffre d'affaires à taux de change constant de 17%. On a quand même des grosses disparités aujourd'hui. Hein. On se rappelle de Gucci qui était à moins 18, lui. Hein. On a Burberry, Ferragamo qui était en négatif à deux chiffres. LVMH qui était à plus 3. Et puis, il y en a quelques-uns qui publient des croissances à deux chiffres, malgré quand même des comparables très élevés. Hein. Et donc, on a dans ce registre-là, Moncler, Prada et Hermès. Hermès, avec plus 17, fait quand même des trajectoires quand même exceptionnelles à tout niveau. Toutes les zones géographiques affichent des très belles performances, y compris l'Asie hors Japon. On est à plus 14 quand même, il faut le voir. Et y compris sur l'important métier qui est la maroquinerie sellerie, hein, plus 20%. Avec des succès de nouveaux modèles, des hausses de prix de l'ordre de 8 à 9%. Bon, qu'est-ce qui fait baisser le titre? C'est simple, hein, a bien marché depuis le début de l'année et des valorisations qui sont élevées, très élevées. Hein. On est à 15,6 fois les ventes, 52 fois le PER 2024. C'est des PER de technologiques, hein, tout simplement. Et donc, c'est facile de prendre des profits lorsque les taux montent. Ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que sur les publications, il n'y a rien à dire.
Entre nous, hein, Eric. Moins 3,3% Hermès, c'est pas forcément tous les jours que ça arrive. Est-ce que c'est un point d'entrée? Est-ce que vous-même, vous renforcez vos positions Hermès? Vous profitez de cette baisse pour renforcer cette valeur?
Alors, très honnêtement, moi j'en ai un portefeuille, j'en ai pas vendu aujourd'hui, mais je renforcerai pas non plus aujourd'hui. Elle a fait une très belle perte, faut bien reconnaître. Donc, elle est encore loin de ses moyennes mobiles de son jour, elle est loin d'avoir consolidé. Donc, c'est pas aujourd'hui que je renforcerai le titre, non.
Une autre valeur à suivre. Alors, liée de loin au déploiement de l'intelligence artificielle, du cloud, la transition énergétique, bref, l'électrification, Schneider Electric, équipementier électrique qui, c'est vrai, en fournissant des équipements électriques aussi, pourrait surfer la vague de déploiement de l'IA. L'IA sera consommatrice d'électricité. Le cloud aussi, bien sûr, la transition énergétique. Il se trouve que Schneider Electric a publié ses résultats et pour le coup, le titre recule. Même question, est-ce que c'est un point d'entrée? Souvent, on a tendance à dire que Schneider Electric était une valeur industrielle et est en train peu à peu de transitionner, de muter en valeur tech. Est-ce que la publication du jour confirme ce beau scénario?
Alors, il y a un peu de tout dans Schneider, hein. C'est-à-dire qu'il y a une belle croissance organique puisqu'elle affiche en fait une hausse de 5,3% versus un consensus qui était plutôt à 4,5%. Donc là, il y a des choses bien. Quand on parle un petit peu de digital, de tech, etc., il y a des choses qui marchent bien. Par exemple, l'energy management est en croissance organique de 8,9% dans toutes les géographies, hein, et notamment l'énergie en Amérique du Nord qui est en croissance de 10,2%, alors que il y avait des bases de comparaison qui étaient déjà élevées, donc ça c'est bien. Technologie, on parle de data center, de l'infrastructure qui a été très solide, en particulier aux États-Unis, donc ça c'est très bien. Le segment digital automation, en particulier en Chine, est en croissance, ça c'est quand même à souligner, c'est ce qui faisait certainement monter le titre ce matin. Maintenant, il y a des choses qui sont moins fortes. Hein. Quand on regarde, par exemple, les parties à plus cycliques et en Europe, la division industrielle automation, hein, elle en recul organique de 6,6%. Et c'est le premier trimestre de croissance négative depuis 2020. Donc, clairement, là, le groupe pâtit d'une exposition au cycle court, hein, avec notamment un marché de la construction résidentielle en Europe et en Europe de l'Ouest qui est à moins 15%. Donc c'est beaucoup quand même, en Amérique du Nord on est quand même à moins 9,9. Donc C'est vrai que Schneider, c'est le groupe le mieux positionné pour capitaliser sur l'électrification, hein, la décarbonisation, le passage à l'efficacité énergétique. On le voit, hein, la croissance rapide des centres de données, l'expansion des réseaux électriques, la numérisation et l'automatisation. Tout ça, c'est vrai que c'est dans Schneider. Maintenant, c'est encore une valeur industrielle, on le voit. Hein, donc, moins 15 quand même sur des cycles courts, c'est quand même mal. Et donc, on a un PER aujourd'hui de 25 avec des utilisations qui ont beaucoup augmenté. Une valeur d'entreprise sur la base de ses ventes de 3,4 fois. Bon, c'est les ratios d'ABB, ça. C'est pareil, Schneider est un tout petit peu plus cher, mais ABB est très proche de ses valorisations. Donc encore valorisé comme une valeur industrielle. C'est pas les résultats aujourd'hui qui vont faire changer de statut. C'est peut-être cette acquisition. Hein. On avait un article du Wall Street Journal qui montrait il y a quelques jours, il y a à peine une semaine, hein, que Schneider était intéressé par une autre entreprise, une entreprise de logiciels, donc d'ingénierie, qui s'appelait Bentley Systems. Donc ça pouvait être 15 milliards d'acquisitions. Ils avaient acheté déjà des logiciels, hein, donc avec Aveva. Ben ça peut faire passer effectivement vers le statut de technologie, mais vous voyez, il faut dépenser de l'argent pour y arriver et pour encore faire monter les valorisations.
Effectivement, il reste encore du chemin. En tout cas, aujourd'hui, Schneider, après sa publication, perd 1% dans un marché qui recule davantage. Donc Schneider Electric, en fait, surperforme un petit peu le marché. Et sur six mois, vous voyez la courbe. Pour ceux qui nous suivent à la radio, BFM Business et aussi à la télévision, la courbe qui nous montre cette hausse en 6 mois de 50%, 51% pour Schneider Electric. Il nous appelle à nouveau depuis le pont, hein, face aux vagues, cette vague de publication énorme et les embruns. Notre CAC 40 est en net repli. Depuis le pont, donc, il est tout mouillé. Étienne, à nouveau, parmi les autres annonces d'entreprise, vous avez repéré le titre BNP Paribas, Étienne, aujourd'hui.
Et dans l'ensemble du secteur bancaire, hein, qui est bien orienté aujourd'hui en Europe, regardez Deutsche Bank qui gagne plus de 7% à Francfort avec des résultats meilleurs que prévus. C'est même d'ailleurs le meilleur trimestre pour Deutsche Bank depuis 2013. Vous avez Barclays également qui gagne plus de 6%. Et puis BNP également qui a publié ses résultats ce matin et qui gagne 0,4% quand le CAC perd 1,4%, avec des résultats qui sont meilleurs qu'anticipés. Hein. Le groupe a surpris positivement, notamment dans son activité en France, hein, qui est toujours comprimée avec la remontée des taux, moins de distribution de crédit. Ça pèse sur la rentabilité. Mais vous avez un groupe qui profite des émissions obligataires, hein, qui ont repris très largement depuis le début de l'année, comme aux États-Unis. Donc ça, c'est bon pour son activité de banque de financement, hein, dédiée aux activités professionnelles. Et puis, dans le même temps, vous avez également un groupe qui met vraiment l'accent sur la réduction des coûts, hein, qui a été opéré dans le groupe en France, mais aussi à l'international. Et donc, in fine, vous avez des résultats qui sont largement meilleurs que prévu. 3 milliards de bénéfices quand le consensus s'attendait à 2,5%. Donc ça, c'est apprécié par le marché après déjà un très beau rallye, hein, puisque vous avez BNP qui gagne plus de 25% depuis son plus bas de mi-février. Et donc l'ensemble du secteur bancaire qui rassure aujourd'hui en Europe. Et puis si cette publication de BNP vous intéresse, Thierry Laborde, le directeur général de délégué BNP Paribas, sera l'invité de BFM Business ce soir à 18h10.
Effectivement, bien rester en ligne et au contact de BFM. Merci beaucoup Étienne Braque depuis la Tour Euronext. BNP qui progresse dans un marché en repli. Le CAC perd donc aujourd'hui 1,3%, il abandonne les 8000 points. Tout à l'heure, on parlait du potentiel du marché du cuivre avec Frédéric Rosier. C'était dans la Bourse Cash, il était 15h40 parce qu'on va peut-être assister à un rapprochement géant entre BHP et Anglo-American, ce qui donnerait d'ailleurs naissance à un nouveau leader mondial du cuivre, figurez-vous. Et c'est un enjeu stratégique, le cuivre, justement pour l'électrification et donc aussi l'IA, le cloud ou encore la transition énergétique. Quel avenir dans le cuivre, Frédéric Rosier? Si vous avez raté le direct, le replay est disponible, n'hésitez pas à le consulter sur notre application BFM Business.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et un chiffre important aujourd'hui, c'est aux États-Unis, le PIB américain, la croissance du premier trimestre a été publiée. Gilles Mouek est avec nous, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors ravi de vous retrouver. Ça fait des trimestres et des trimestres et des trimestres qu'on admire les États-Unis, qu'on s'ébahit devant chaque chiffre de croissance. Là, on a quand même un chiffre qui ralentit nettement. On attendait une croissance au premier trimestre aux États-Unis de 2,2%. Elle ressort à seulement, enfin c'est quand même pas mal, mais seulement 1,6%. Est-ce que c'est le début d'un vrai coup de frein d'après vous sur la dynamique américaine?
Donc, il y a 1,6, c'est en annualisé. Donc, si on le mesurait à l'européenne, ce serait 0,4. Donc là, tout d'un coup, ça paraît effectivement pas stellaire du tout. Alors, c'est assez intéressant quand on regarde les contributions, parce que tout est un peu mou du côté de la demande intérieure. Et ça, c'est sans doute l'élément qui va le plus rassurer la Fed. On a un ralentissement assez net hein, de la consommation privée. On a aussi un investissement non résidentiel qui est un peu mou, donc rien de catastrophique côté demande de l'intérieur, mais c'est quand même un peu plus plat. Et ça, ce serait quand même le signe que, au final, le durcissement des conditions monétaires a bien fini par avoir un impact, que le consommateur américain commence à fatiguer un petit peu. Mais le grand élément qui fait passer la croissance américaine un peu en dessous du potentiel, c'est la contribution très négative des échanges extérieurs. Et ça, c'est probablement le prix que les États-Unis payent pour l'appréciation du dollar, qui commence à avoir un impact assez adverse sur les exportations, alors qu'on a des importations qui se tiennent très bien, alors même que la demande est un peu en retrait. Donc c'est plutôt un signe d'affaissement, mais ce n'est pas ce que le marché retient, parce que le marché s'intéresse essentiellement à l'inflation, parce qu'on a cette obsession bien compréhensible d'ailleurs autour de ce que la Fed fera. Et le chiffre de l'inflation sous-jacente, déflateur de la consommation sous-jacente pour le premier trimestre, est cohérent avec, on aura le chiffre de mars lundi, avec de nouveau un chiffre d'inflation très, très charnu pour le mois de mars. Et donc c'est ça qui fait dévisser le marché. Un de vos interlocuteurs tout à l'heure parlait, voilà, résumé avec moins de croissance, plus d'inflation, c'est un peu ça. Simplement, j'ai l'impression qu'il faut aussi remettre un peu en mémoire la séquence. C'est-à-dire qu'en général, il faut d'abord obtenir un ralentissement de la croissance avant de commencer à avoir un effet sur l'inflation. Donc le chiffre de l'inflation sous-jacente au premier trimestre est bien évidemment problématique, et ça participera du fait que la Fed attendra probablement maintenant plusieurs mois avant de commencer à baisser ses taux. Mais voilà, soyons un peu patients. Il fallait obtenir ce ralentissement. Ce ralentissement est peut-être en train de venir. Il faut être prudent, parce que ça peut être simplement aussi la variation un peu aléatoire des données, mais il semble que ça ralentisse. La deuxième étape, ce sera une décélération un peu plus franche de l'inflation sous-jacente, et ça peut prendre encore quelques mois.
Et alors, quelques mois, justement, c'est combien? Juin, juillet, septembre, pourquoi pas plutôt attendre la fin de l'année ou 2025? Enfin, vous êtes en train, vous-même, peut-être, chez AXA, d'ajuster un petit peu le tir sur le calendrier de baisse de taux de la réserve fédérale américaine. On voit l'hypothèse d'une hausse de taux même poindre. Alors, elle est très limitée, hein, à peine 20% de probabilité. Enfin, c'est pas rien non plus, 20%. Comment est-ce que vous vous ajustez vous-même, Gilles?
Nous, on a encore deux baisses de taux de la part de la Fed, avec un premier mouvement au mois de septembre, parce que on était jusque-là sur trois baisses de taux avec un démarrage au mois de juin. Donc on intègre complètement le fait qu'effectivement le flux de données ne peut pas à ce stade donner un niveau de confiance suffisant à la Fed pour baisser ses taux très très vite. Donc une attente jusqu'à la fin de l'été, ça nous paraît quelque chose de cohérent avec l'assessement de la demande intérieure qui se traduirait à la fin par un ralentissement supplémentaire de l'inflation. La hausse des taux, pourquoi faire? C'est-à-dire que ça a été un peu évoqué en creux par plusieurs membres du board de la Fed qui ont dit tout simplement, si on s'aperçoit que l'inflation ne ralentit pas, eh bien, on maintiendra les taux là où ils sont pendant plus longtemps. Parce que les taux, quoi qu'on parle, je crois, comme tout le monde, qu'effectivement, probablement, le taux d'intérêt d'équilibre aux États-Unis a remonté, quand même, à 5,5, on tape. Et si on reste à 5,5, le simple fait de rester à 5,5, alors que l'inflation a quand même ralenti fortement depuis plus d'un an, c'est normalement suffisant pour faire atterrir à la fin des fins l'inflation. Donc la hausse des taux, ça me paraît encore un scénario très vraiment très très extrême. Donc 20% de probabilité, ça me paraît élevé. Gardons en tête les élections américaines à la fin de l'année. Si effectivement on a la mise en place de la politique Trump telle qu'elle est aujourd'hui décrite par Trump, c'est-à-dire hausse des tarifs douaniers massives accompagnée de baisse d'impôts, là, on peut effectivement être dans une configuration où la Fed est obligée d'augmenter ses taux. Mais pour cela, il faudra que Trump non seulement gagne l'élection présidentielle, mais qu'il gagne également le contrôle du Congrès, et on n'en est pas là. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment seulement sous cette hypothèse-là qu'on pourrait vraiment envisager une hausse des taux.
Une dernière question. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin à la Sorbonne à propos de l'avenir de l'Europe et il a parlé aussi des mandats mandats de la Banque Centrale Européenne en expliquant, voilà, le mandat unique d'inflation actuel est un peu daté, a-t-il dit. Il faudrait, pourquoi pas, ajouter un mandat aussi de croissance, c'est un peu ce qu'ont les Américains, et aussi un mandat climatique, d'atteinte d'objectifs climatiques. Ce qui ferait donc éventuellement trois mandats à suivre pour une seule Banque Centrale. Et ça vous semble jouable ou pas, franchement, Gilles?
Il y a déjà en fait en pratique une espèce de mandat climatique à la BCE, puisque d'ailleurs sous l'impulsion de Christine Lagarde, il y a eu ce qu'on appelle un verdissement du cadre opérationnel de la BCE. Donc la BCE ne se désintéresse pas de la question climatique, c'est même l'inverse. Sur la question de l'ajout d'un objectif d'emploi, de plein emploi à l'objectif habituel d'inflation, j'ai vraiment quelques doutes sur l'impact réel de ce type de modification. À supposer que cette modification sera acceptable pour nos partenaires européens, et je crains bien que du côté de Berlin, la résistance soit assez massive. Mais regardez le comportement de la Fed. Est-ce que la Fed a été véritablement plus coulante, entre guillemets, que la BCE dans cette phase de lutte contre l'inflation? Pas vraiment. Donc oui. Alors probablement recréer un débat un peu difficile avec l'Allemagne pour un résultat final qui n'est pas forcément très 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 tangible. Moi, c'est parce que je suis démodé, j'ai appris la politique monétaire dans les années 90. Si tout marche bien, il n'y a pas de conflit d'objectifs. C'est-à-dire que si l'inflation est haute, a priori, ça veut dire qu'on est plutôt dans une phase conjoncturelle favorable et ça veut plutôt dire que l'emploi est en train d'aller dans la bonne direction. Les cas où l'inflation augmente très vite, alors même que la situation conjoncturelle se dégrade, sont assez rares. Et dans ces cas-là, en général, la Banque centrale d'elle-même intègre cette dimension d'emploi. Donc voilà, mais encore une fois, je suis un peu vieux jeu.
Mais non, pas du tout. Gilles, merci beaucoup de nous accompagner régulièrement chaque jeudi, depuis des années d'ailleurs, sur BFM Business, chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup, bon après-midi à Londres. Vous nous accompagnez depuis Londres à chaque fois. Le CAC 40 est en repli en ce moment, moins 1,2%. Wall Street aussi. Et le titre Meta, dont on va reparler bien sûr tout au long de l'après-midi, dans cette émission BFM Bourse, le titre Meta est en baisse actuellement 13% après sa publication. On va d'ailleurs en continuer d'en parler, puisqu'il est question d'intelligence artificielle, d'en parler tout de suite. C'est parti.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et parce que l'IA, il y a encore quelques semaines, dès qu'on disait IA, 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 les titres progressaient en bourse, on va investir plus dans l'IA, c'était salué par le marché. Là, Meta nous annonce plus de dépenses dans l'IA, mais c'est sanctionné par le marché parce que les revenus, eux, risquent de se faire attendre, c'est ce que n'aime pas la bourse. Rolando Grandi est avec nous. Bonjour Rolando.
Bonjour Guillaume.
Gérant à la financière de l'Échiquier. Cette thématique IA, c'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle, on pourra zoomer dans un instant sur les publications et les annonces du jour. Il est encore temps, ça fait un an et demi que l'IA monte en bourse. On sent des signes d'essoufflement. Pour vous, il est encore temps d'y aller, d'y investir quand même sur les marchés?
Pour moi, la réponse est oui, encore et toujours. Mais à la fois, il faut distinguer deux choses. Le court terme, et Guillaume, vous l'évoquiez, ça fait un an et demi que ce qui rythme la performance boursière, c'est l'intelligence artificielle. Mais on est passé en 2023 d'une année qui était un peu plus sur les annonces. Toutes les entreprises annonçaient qu'elles se découvraient sur l'intelligence artificielle, qu'elles développaient des algorithmes, des produits. Et ça marchait, les investisseurs ont acheté la promesse. La question, et c'est, je pense, l'enjeu de 2024, boursièrement parlant en tout cas, c'est qui sont les véritables acteurs des liens et qui ont fait un peu le AI washing. Mais ça, c'est très conjoncturel, parce que si on prend un tout petit peu des reculs, et on répondra entre qui est dans quel camp, si on prend un peu des reculs, l'intelligence artificielle reste une méga tendance, extrêmement bien ancrée, je pense, sur une tendance très forte des digitalisations de l'économie, de transformer les données qui sont en croissance exponentielle en valeur ajoutée à travers des applications, à utiliser finalement l'usine du 21e siècle qui est le cloud, et surtout avoir cette capacité de développer des réseaux neuronaux artificiels qui sont, eux, en croissance exponentielle. Donc la thématique est bien installée, ça va durer plusieurs années. N'oublions pas que la précédente vague technologique qu'était Internet, ça a pris 20 ans pour se développer, et pendant 20 ans, on a pu investir sans problème.
Quelle sera la prochaine étape de l'IA ?
Dans l'intelligence artificielle de demain, ce que nous voyons, ce sont trois vagues d'adoption. Parce qu'on peut, comme on disait, 2023, c'était un peu l'année des annonces, et donc tout le monde a couru acheter les pelles et les pioches. On le voit bien, Nvidia, qui est une valeur que nous, on aime beaucoup, va faire 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année. C'est des cartes graphiques qui sont achetées par Meta, ça a été dit hier soir, par Tesla, qui l'a dit il y a deux jours, qu'il va multiplier par deux ces quantités de cartes graphiques. Donc, c'est la première vague, c'était les pelles et les pioches. Mais ensuite, et c'est là où je pense que nous sommes à l'heure actuelle, dans un moment charnière, on bascule sur ce que j'appelle la deuxième vague de l'adoption des liens. Ce sont ces sociétés qui sont en train de développer les technologies d'intelligence artificielle, les logiciels, et qui les commercialisent. Je pense à ServiceNow, je pense à Microsoft, qui publie ses soir d'ailleurs, il faudra suivre cette publication. Je pense à Adobe, Salesforce. Donc c'est comment on commercialise et on monétise l'intelligence artificielle. Comment on génère en retour sur investissement sur ces milliards de dollars qui sont investis dans les pelles et les pioches et des mains dans des produits qui sont commercialisés.
C'est mais ça. Plus intéressant... Et là-dessus, Microsoft est en avance. Ils arrivent déjà à générer des revenus grâce à l'IA alors que Meta est en retard. C'est pour ça que Meta est sanctionné aujourd'hui d'ailleurs.
Ouais. C'est tout à fait ça. Et le plus intéressant, je pense, sera en face... Qui achète l'intelligence artificielle ? Qui sont les clients de Microsoft qui aujourd'hui se dotent d'intelligence artificielle pour gagner en productivité, en compétitivité ? Ça, c'est un peu la troisième vague d'adoption qu'on va voir et sans doute une des plus intéressantes parce que là, on s'adresse à toute l'économie. Je pense que demain, toute entreprise devrait se tourner et avoir une stratégie d'intelligence artificielle et donc créer des opportunités d'investissement sur toute cette chaîne de valeur qui s'est constituée.
Alors c'est intéressant parce que vous nous apportez un discours en hauteur, au-dessus de tout ça, voilà, au-dessus de l'écume des jours, des publications trimestrielles, vision longue sur l'intelligence artificielle et son potentiel. Aujourd'hui, Meta recule, c'est vrai, moins 12 à Wall Street. Ce soir, Microsoft publiera, il ne faudra pas qu'il se loupe là-dessus. Alphabet aussi, qui est en retard sur Microsoft, devra prouver que ce retard n'est pas irrémédiable. Ce sera après la clôture de Wall Street. Mais alors, vous nous proposez, au-delà de ces GAFAM et des 7 magnifiques, d'investir dans l'IA à travers d'autres titres, moins connus, mais qui, justement, sur les prochaines étapes de l'IA, seront peut-être très bénéficiaires du potentiel. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces valeurs ?
C'est exactement ce point-là. Les magnifiques Seven, comme on les a appelés désormais, qui portent bien leur nom, c'est des belles entreprises, très grandes, qui ont les ressources, qui ont les moyens, qui ont les technologies. Mais elles sont déjà bien identifiées. Alors nous, on les aime bien dans notre fonds. On en a ces entreprises-là, pas toutes, mais une grande partie. Regardons qu'est-ce qu'il y a ailleurs dans la côte, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais zoomer sur une société en particulier américaine qui s'appelle Datadog et qui d'ailleurs a été créée par deux Français qui aujourd'hui dirigent encore la société. Pourquoi cette société, elle est très intéressante ? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise moderne a une infrastructure technologique. Le cloud, qu'on imagine toujours très digital, c'est une véritable usine. Et pour pouvoir comprendre comment fonctionne cette usine, comment les applications sont en train de tourner, les données qui rentrent et qui sortent de cette usine, ben il faut pouvoir l'observer. Mais dans le monde digital, cette observation ne se fait qu'à travers des logiciels comme ceux fournis par Datadog. Donc c'est vraiment apporter les yeux à toute entreprise sur leur infrastructure technologique qui demain se modernise vers l'intelligence artificielle, vers les données, vers les GPU des Nvidia. Et donc Datadog, c'est aujourd'hui un des leaders dans cette thématique qui est l'observabilité dans les data centers, dans le cloud.
Datadog, coté à Wall Street en l'occurrence, mais créé par deux Français, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Quel gâchis. Olivier Pommel et Alexis Lecoq, en
tout
l'occurrence.
Tout à fait, ouais.
Merci beaucoup, Rolando, de nous avoir accompagné aujourd'hui. L'intelligence artificielle avec un petit peu de hauteur, alors qu'on est au milieu de ces très nombreuses publications des GAFAM et des 7 magnifiques. Rolando Grandi, gérant à la financière de l'Échiquier. Bon retour, Rolando.
Merci.
Dans un instant, c'est la famille qui va se réunir jusqu'à 17h. Justement, on va revenir sur la chute, la forte baisse de Meta aujourd'hui, anticipée à nouveau Microsoft et Alphabet qui publieront ce soir, et puis revenir aussi sur les publications à Paris qui sont nombreuses. Des rescapés, hein, même si le CAC perd 1,5%, notamment Sanofi. Sanofi gagne en ce moment 4%. On y revient dans un instant. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille réunie jusqu'à 17h, les équipes radio, télé et web de BFM Bourse. Jean-Louis Dalloro est avec nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. BFMBourse.com, que d'articles aujourd'hui.
Ouais.
Que de publications.
Ah, c'est la grosse journée de publications. On le rappelle, 21 publications pour les groupes du CAC 40.
Cette semaine, ouais. Et 11 aujourd'hui.
Ouais.
C'est énorme quand même.
Et 21 cette semaine, ouais.
Effectivement, ouais. Pour l'instant, c'est une sanction. Le CAC 40 perd 1,5%. Étienne Braque nous disait, c'est pour l'instant la pire baisse depuis le 24 mai 2023 qu'on est en train de vivre, mine de rien, sur le CAC 40.
Oui, alors après, on avait peu de volatilité avant dans ces derniers mois. Et c'est vrai qu'on avait eu quand même beaucoup de chance ces derniers mois. Là, on voit quand même que les résultats trimestriels sont un peu mitigé. Ça dépend bien sûr hein, toujours des groupes, parce qu'il y a des résultats qui sont assez solides comme Hermès ou BNP. Mais c'est vrai que du côté d'STMicro, Pernod Ricard par exemple, c'est pas terrible. Alors, en tout cas, c'est moins bon qu'attendu. Donc le CAC baisse et repasse sous la barre des 8000 points. Et puis, alors ça, c'est la micro, c'est les résultats des entreprises. Et puis il y a la macro.
Aïe.
Le PIB américain qui est beaucoup plus faible qu'attendu. Et l'inflation qui est un petit peu au-dessus de ce qui était attendu.
Eh oui.
Donc c'est un peu le spectre de la stagflation.
Aïe.
Alors après, faut pas s'emballer. Faudra avoir plusieurs trimestres, mais c'est vrai que là, c'est pas très très bon du côté de la macro non plus.
On en parlait précisément avec Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA. C'était il y a une vingtaine de minutes. Gilles Mouek dans l'Écho du Monde à 16h15. Replay bfmbourse.com et notre application BFM Business si vous souhaitez réécouter l'analyse de Gilles Mouek sur cette croissance américaine qui nous surprend, mais l'inflation, elle, qui tient aux États-Unis. C'est pour ça que l'inflation tenant, le 10 ans américain continue de monter mine de rien. On est à 4,77 en ce moment sur le 10 ans américain. Ça monte, ça monte. Romain Daubry nous accompagne. Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour,
c'est quand même un repli marqué. Alors on perdait un peu plus de terrain il y a une demi-heure. Là, on essaie de limiter un tout petit peu la baisse. On ne perd plus, entre guillemets, qu'un pour cent à la Bourse de Paris. Et on vient à l'instant vraiment, Romain, de reconquérir les 8000. 8000, deux points. Comment est-ce que vous voyez la suite ?
Bien comme un mouvement de consolidation qu'on pressentait un petit peu. On l'avait expliqué, hein, le mouvement à moyen terme a connu un coup d'arrêt sur l'ensemble des indices. On a replié, on a touché des niveaux cibles, 4957 sur le S&P, 16970 sur le Nasdaq 100, etc. Sur la plupart des indices, 4880, 4915 sur l'Eurostox, c'était des niveaux cibles pour un mouvement de consolidation légitime. Est-ce que le rebond qui suivait allait être coiffé par des niveaux de résistance majeurs et tous les indices se sont repliés contre ces niveaux-là? Pour l'instant, ça reste technique et l'élément important à noter, c'est qu'à hier soir, on verra ce qu'il en est de la séance du jour demain, mais à hier soir, l'état des positions ouvertes, l'état des forces indiquait que quand on a rebondi, on n'avait pas de volume, mais aucun soutien acheteur, et ça même sur les indices américains. C'est-à-dire que les mouvements de rebond se sont produits sans aucun soutien sur les marchés à terme, sur les contrats futurs, ce qui est un signe de faiblesse dans le rebond, mais on n'a pas connu de pression baissière non plus. Donc on est vraiment entre deux eaux. Au bord de niveau de support, avec un risque d'accélération baissière un peu plus marqué, c'est le scénario qu'on privilégie, avec sur les niveaux actuels, à peu près 4 à 5% de baisse complémentaire, sur les points bas qu'on a connus la semaine dernière, à peu près le double, c'est-à-dire de l'ordre de 3% de plus, sur la plupart des indices. Pour l'instant, le mouvement se passe de façon assez harmonieuse et sur l'ensemble des indices, donc il n'y a pas de panique. On voit que ça reste assez lourd sur certains secteurs, et vous le signaliez, des bonnes publications pour Hermès qui baissent, et des publications moyennes, voire pas terribles pour STM, qui payent aujourd'hui, donc on a peut-être aussi des divergences de comportement au sein des différents indices et des secteurs.
Alors justement, les secteurs, on a un secteur qui cartonne aujourd'hui avec en plus peut-être une consolidation à venir, dans en l'occurrence le cuivre, BHP, qui fait une offre à Anglo-American, ce qui donnerait naissance au leader mondial du cuivre, un nouveau leader mondial qui détiendrait à lui seul 10% du cuivre mondial. Pour l'instant, on ne sait pas si ce rapprochement aura bien lieu, mais l'offre est là, elle est sur la table et on voit tout le secteur qui progresse. À Paris, une valeur minière s'en sort particulièrement, c'est le titre Eramet, qu'Eric Lewin d'ailleurs avait évoqué lundi en disant « je suis optimiste sur Eramet ». Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, le titre Eramet gagne un peu plus de 4%. D'un point de vue technique, Romain, est-ce que vous lui trouvez beaucoup de potentiel à ce titre Eramet ?
Ben oui, il avait bien vu, Eric, cette valeur. C'est un titre qui donc était installé sous une ligne de tendance baissière depuis mars 2023. Elle a cessé de baisser et rebondi trois fois au moins sur un niveau de support majeur qui est 59,70. Elle a formé ce double rebond à plusieurs mois d'écart, ce qui permet de valider un double bottom et en franchissant le niveau de 75-20 qu'elle a débordé depuis 48 heures maintenant. Donc, elle valide ce double bottom, ça donne en mire un niveau de 90,30. Reste qu'on a une très grosse résistance sous laquelle elle bute pour l'instant, c'est 80-60. Donc, tant qu'on est au-delà de 75-20 en clôture, même clôture hebdomadaire, tout va bien et le parcours devrait être haussier. Maintenant, il faut vraiment faire sauter ce bouchon de 80-60, mais dans un marché qui consolide, c'est effectivement un parcours intéressant à noter. Un élément stratégique sur Eramet, c'est quand même un titre qui est très exposé aux éléments géopolitiques, donc attention à la volatilité et aux nouvelles. On a connu plusieurs fois des mouvements de baisse marqués suite à des problèmes en Afrique notamment.
Et effectivement, bien sûr, Eramet donc aujourd'hui en progression et l'ensemble du secteur minier, parce que dans le cuivre, il y a une forme d'ébullition. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Hein. L'avenir sera-t-il doré ? On n'en sait rien. En tout cas, il regorgera de cuivre, notre avenir, puisqu'il faut de l'électricité pour l'IA, pour le cloud, pour la transition énergétique et pour l'électricité pour la conduire. il faudra plus de cuivre. Si ce rapprochement entre anglo-américaine et BHP se fait, les analystes se disent que ça ouvrira, ça déclenchera sans doute une vague supplémentaire. Pourquoi pas de consolidation dans l'ensemble du segment des matières premières, on suivra ça. Romain Daubry, on vous propose de rester avec nous en fil rouge, rapport au cuivre d'ailleurs, peut-être le fil rouge, Romain, pour évoquer dans un instant Meta. Meta, c'est l'une des valeurs qu'il ne faut pas rater, Meta qui recule nettement à Wall Street. Mais d'abord, vous tous qui nous suivez, la question. Sur nos réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à notre fil LinkedIn et notre fil XBFM Bourse. On vous demande, au milieu des publications du jour, laquelle vous semble être la plus prometteuse. Est-ce que c'est Hermès qui vous semble, dans sa publication, plus prometteuse? Est-ce que c'est Sanofi qui vous emballe le plus? Plutôt BNP Paribas que Sanofi ou Hermès? Ou encore, pourquoi pas, la publication de Fnac Darty? Laquelle de ces publications vous semble être la plus prometteuse? Jean-Louis.
Moi, j'ai pas trop d'hésitation. Pour moi, c'est Hermès. Sans contestation, hein, c'est plus 17% de croissance hors effet de change. Et la croissance, elle est forte partout. C'est ça qui est assez impressionnant, en particulier au Japon et en Europe. Et puis même en Asie, hors Japon, c'est la zone qu'on appelle comme ça chez Hermès, c'est-à-dire principalement la Chine. Les chiffres sont quand même très bons. Hein. On est à plus 14% sur un an. Et c'est tout simplement le meilleur élève du luxe. On sent qu'il y a une désirabilité pour les produits Hermès qui a pas forcément, en tout cas, qui a un peu moins pour LVMH et encore moins pour Kering.
On n'a pas d'IA en France, mesdames, messieurs. On a en revanche de la désirabilité. C'est Hermès cette désirabilité.
Ouais, c'est le très très haut de gamme, hein, Hermès, et qui font qui sont très intransigeants sur la qualité. Voilà, et ça se ressent. Et en tout cas, ils sont sur un marché quand même très très porteur. Et après, j'aurais dit BNP.
Vous êtes emballé par la publication de BNP. Le titre gagne 0,3, c'est vrai, il
surperforme. C'est solide. Oui. Hein. BNP, c'est quand même très solide. Bien aidé par ses activités de marché, c'est pour ça que je le mettrais, on va dire, en deuxième position, parce que les activités de marché, par nature, sont assez volatiles. Ça va dépendre de ce qui se passe sur les marchés et comment ils arrivent à surfer dessus. Moins important que prévu, notamment le coût du risque. Donc ça, c'est aussi plutôt pas mal. Et des fonds propres qui se tiennent bien. Enfin, voilà. Donc BNP, solide. Mais pareil, on a le meilleur du luxe avec Hermès. BNP, c'est généralement le meilleur de la
banque. C'est le Hermès de la banque.
Le meilleur de la banque.
C'est le Hermès bancaire.
Oui, grosso modo. Et ça se confirme encore.
C'est de la haute couture financière, effectivement. Alors, Hermès, donc, que vous choyez, vous aussi, et que vous privilégiez, vous, auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, vous avez été 47% à voter Hermès. Parmi les publications, laquelle vous semble la plus prometteuse aujourd'hui sur le CAC 40? Hermès, donc, à 47%, juste devant, comme Jean-Louis, BNP Paribas, à 25%, petite BNP arrive en deuxième position. Puis derrière, on a Sanofi. Alors pour le coup, le marché, lui, il vote Sanofi. Hein. Sanofi gagne 4%. C'est une belle publication, Sanofi, aujourd'hui. Frédéric Rosier nous en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, dans la Bourse Cash à 15h40. Puis on vous propose aussi Fnac Darty, qui n'est pas dans le CAC, mais qui a bien publié. Le titre gagne 5%. Pas mal, Fnac Darty aussi, Jean-Louis.
Oui, c'est pas mal aussi, Fnac Darty. Ça résiste plutôt bien dans l'univers de ce qu'on appelle les biens discrétionnaires. Oui. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas essentiels. C'est plutôt une belle valeur qui résiste bien.
Et voici venu le moment de casser l'ambiance. Moins 12%. Une valeur aujourd'hui, une énorme valeur, connue mondialement, dont vous êtes peut-être un des usagers, et moi aussi. Meta. Meta a publié hier soir, et Meta perd 12%, alors que Meta annonce des dépenses supplémentaires dans l'intelligence artificielle. Il y a quelques mois, il y a quelques trimestres, une entreprise qui annonçait plus dépenser pour l'IA, elle cartonnait en bourse. Tout le monde disait, waouh, ils sont ambitieux, l'IA c'est formidable, il faut acheter cette valeur. Mais là, pour Meta, ça ne marche pas.
C'est vrai que c'est assez étonnant, et moi je trouve ça quand même très très sévère. Je dirais même que c'est peut-être un bon point d'entrée pour ceux qui s'intéressent au titre. Alors on a FSR là un peu moins, on doit être autour de 150 milliards de dollars de capitalisation en moins d'un coup. Pourtant si on regarde les résultats, hein, c'est quand même très très impressionnant. Bon des revenus, plus 27% sur un an. Ça c'est le chiffre d'affaires. Les bénéfices, ils doublent. Et si on rapporte ce résultat net au chiffre d'affaires, si on fait une sorte de taux de marge nette, on est autour de 34% de taux de marge nette. Il y a beaucoup d'entreprises qui rêveraient quand même d'afficher des chiffres pareils. Mais c'est vrai que c'est les perspectives qui inquiètent. Le groupe a prévu déjà, premièrement, des revenus pour le deuxième trimestre un petit peu moins forts que ce qu'anticipaient les analystes. Et puis surtout, il y a cette question des investissements dans l'IA et qui sont un petit peu plus forts qu'attendu. Ouais,
alors que les revenus n'arriveront pas rapidement. Donc.
Et effectivement, il y a plusieurs mois, peut-être que ça aurait été bien accueilli. Mais là, je pense que Facebook, enfin la maison mère de Facebook, paye finalement tout ce qu'ils ont fait sur le métavers.
Insta, hein. Insta, c'est plus, ça nous rajeunit si on dit Insta.
La
maison mère d'Insta, on est plus jeune comme ça.
Voilà, Insta, ouais. ils ont quand même investi massivement dans le métavers. Ils ont même changé de nom du groupe pour s'appeler Meta. Bon, et voilà, on a mis
ils continuent d'investir dans le métavers. Hein. Ils n'ont pas renoncé complètement.
On a quand même grosso modo un peu mis ça sous le tapis parce que finalement, il n'y a rien de probant. Ça ne tire pas vraiment les revenus. C'est plutôt un gouffre financier pour l'instant. Et donc, en fait, je pense que c'est un petit peu ça que le marché pénalise, sanctionne. C'est-à-dire que Facebook n'a pas un très bon tracking record sur la R&D et donc ils disent peut-être trop d'investissement dans l'IA.
C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix stratégique qui s'est avéré être un échec. C'est dans le métavers. Et la question, ça, c'est vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Meta prétend un jour devenir le leader mondial quand même de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est pas gagné, ils sont en retard. Et là, ils annoncent donc des dépenses d'investissement encore plus élevées qu'annoncées initialement, mais pour des revenus pas amenés à progresser à court terme. Donc compliqué pour le marché. Dépenser plus pour gagner moins, c'est difficile. Moins 12% ce titre Meta, au point que certains sur le marché se moquent du titre Meta et disent Meta, bon, c'est pas Meta, c'est Meta ceinture, carrément. Pour les investisseurs. Compliqué, c'est
gros niveau de blague.
Voilà. Meta, et ce soir à suivre Microsoft. Mais effectivement, Microsoft, après bourse. Alors eux, ils arrivent à monétiser l'intelligence artificielle Microsoft. Ils arrivent déjà, mais ils seront quand même attendus là-dessus. Justement, il ne faudra pas décevoir. Il faudra continuer d'accélérer sans doute dans la monétisation. Publication ce soir après bourse de Microsoft. Et puis celle aussi d'Alphabet, qui est en retard dans l'IA. Alphabet devra, dans sa publication, ses perspectives, confirmer que ce retard n'est pas encore irrémédiable. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Meta, moins 12%. Oui, Meta ceinture en l'occurrence. Enfin, techniquement, comment est-ce que vous voyez la suite et le potentiel de Meta en bourse? Romain.
Bien, il faut rappeler que Meta, elle est coutumière de ce genre de gap gigantesque et de trous de cotation. Lors de ses publications du 2 février dernier, elle avait progressé, elle avait laissé un gap haussier ouvert de plus de 15%. Donc il y a des mouvements brutaux et je pense que le marché d'une façon générale devient assez brutal et que les écarts sont importants. On avait peut-être sous-estimé son potentiel et ses résultats en février. Là, on a peut-être un peu surestimé. Il y avait besoin de consolider ce mouvement-là et un gap aussi large ouvert sur un titre. C'est souvent un appel pour les cotations. Le gap, il a été ouvert au-delà de 406, on a fait un plus bas à 414,5 en séance. Donc on est vraiment entre deux eaux, et avec le trou de cotation laissé ouvert aujourd'hui à l'ouverture, on laisse isoler toutes les cotations qui étaient entre le 2 février et hier soir. C'est ce qu'on appelle un îlot de renversement. Graphiquement, c'est pas terrible. Maintenant, il va falloir reconstruire, et ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas été comblé le gap, donc à 406 en bas, et qu'on n'arrive pas non plus à revenir dans la zone de cotation précédente qui est située à 452,53. Donc il va falloir à l'intérieur reconstruire et aller toucher au moins l'une des deux bornes pour refaire le lien dans ces cotations-là et pouvoir reconstruire quelque chose. Mais elle qui perdait plus de 16% à un moment, bon, remonte un petit peu. Il y a manifestement certains opérateurs qui trouvent des points d'entrée sur le titre et c'est plutôt un mouvement de consolidation légitime après un excès un peu brutal qui se met en place. Maintenant, reste que quelque chose est cassé à court terme, il va falloir reconstruire un peu plus à moyen long terme.
Merci beaucoup Romain Daubry, qu'on rappellera la clôture des marchés à 17h35, la cellule info d'experts de Bourse Direct. À tout à l'heure, Romain. Et puis, il faut rendre à César ce qui est à César. Meta, qui plonge en bourse, qui recule fortement. Meta ceinture, hein, franchement. Et cette blague, c'est Vincent Lequartier qui nous accompagne régulièrement dans BFM Bourse. Vincent, qu'on salue et qui nous suit, on le sait régulièrement, cette blague l'a postée ce matin sur Twitter. On ne pouvait pas s'empêcher de la lui piquer. Allez, tout de suite, c'est Bullshitomètre, 16h48, chaque jour. Oui, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue un peu trop facile à ses yeux. Aujourd'hui, c'est Bertrand Puif pour Fidelity. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bienvenue. L'immobilier. Tiens, on va parler d'immobilier parce que Jean-Louis aime bien aussi l'immobilier. Il vaut mieux investir dans l'immobilier à vos yeux, Bertrand, à travers les SCPI qu'à travers les valeurs immobilières. C'est une question qu'on se pose. On entend régulièrement qu'il vaut mieux y investir dans l'immobilier, quitte à choisir la pierre papier via les SCPI plutôt que via la bourse. Ben vous vous dites bullshit. Vous foudroyez. L'idée que les SCPI seraient davantage un refuge que l'immobilier coté en bourse. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, déjà, il y a une différenciation dans la valorisation. C'est qu'un titre boursier, par définition, est coté tous les jours. Donc le marché a tendance, alors des fois peut-être un petit peu à surjouer les choses, hein, mais en tout cas, il y a une valorisation qui est actualisée en temps réel, ou en essai de valorisation en tout cas. Sur les SCPI, la problématique, c'est qu'en règle générale, dans 80% des cas, on a des valorisations annuelles qui sont basées sur des valeurs d'expertise, basées donc sur des transactions qui ont eu lieu ou pas. Et on sait que plus le marché est mauvais, moins il y a de transactions. Donc au final, la valorisation n'est pas forcément, en période compliquée, représentative pour les SCPI. Et donc, on arrive effectivement à des déconnexions qui sont assez fortes, puisque si on regarde depuis le début de la hausse des taux, hein, de janvier 2022, on a un indice Stoxx 600, donc Real Estate, hein, donc qui prend les principaux titres cotés, qui est à moins 40. Et quand on prend la moyenne des SCPI sur la période, on est à peu près entre moins 5 et moins 7. Donc on peut pas dire que d'un côté on a que les mauvais actifs qui sont cotés en bourse, c'est ce qui justifierait un moins 40, et que les meilleurs actifs qui sont des actifs pas cotés au sein des SCPI. Donc effectivement les choses sont plus compliquées, hein. Mais ce qu'on a, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement le marché financier a tendance à la hausse comme à la baisse en période euphorique ou en période pessimiste à être à suramplifié. Ce que ne font pas les SCPI, mais parce qu'effectivement, elles ne traitent pas beaucoup. Ce sont nos auditeurs, nos téléspectateurs doivent le savoir, ce sont quand même des placements qui sont très peu liquides. On en parlera un peu plus en détail.
C'est vrai que c'est moins liquide les SCPI, mais quand même, quand on regarde les performances de l'immobilier depuis un an, l'immobilier coté, hein, c'est quand même pas terrible, hein.
Alors, c'est vrai que l'immobilier coté,
C'est la cata. Non, mais Bertrand, l'immobilier, vous n'allez pas nous vendre l'immobilier coté, c'est une catastrophe.
Aujourd'hui, oui. Bien sûr, évidemment, il fallait pas en avoir.
Vous n'avez ni les avantages de l'immobilier, ni les avantages de la bourse. Ah, dites donc.
C'est pour ça qu'il faut être contrariant, sur ce secteur-là en particulier. Et si on considère que les taux, effectivement, on a une tension à court terme sur les taux longs américains, mais on va dire qu'on est plus ou moins normalisé sur les taux longs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Eh bien, on peut penser que c'est la pression qui vient de cette dynamique de taux va s'estomper et que les investisseurs vont regarder à nouveau les fondamentaux. Quand on regarde les décotes par rapport aux actifs nets réévalués, donc grosso modo la valeur bilancielle actualisée à l'année donc de ces sociétés-là, on est en moyenne aujourd'hui sur les sociétés cotées à à 36% de décote. La moyenne historique de ces sociétés cotées, c'est aux alentours de 14-15%. Donc on est à deux fois la décote historique. Et évidemment, les SCPI ne traitent avec aucune décote, puisqu'elles ont une valorisation purement bilancielle, et il n'y a pas de décote puisqu'elles ne sont pas cotées.
Ça commence, oui, c'est vrai, mais elles commencent à se dévaluer un petit peu.
Voilà, et puis il faut savoir également que quand vous êtes dans une SCPI, vous avez une valeur d'achat et une valeur de vente. Quand vous achetez un titre boursier, vous avez cet écart entre l'offre et la demande et de moins de 1% quand la société est liquide. Sur une SCPI classique, il y a entre 8 et 10% d'écart. C'est-à-dire que si j'achète aujourd'hui ma part de SCPI et que je la vends demain, j'aurai déjà perdu 10%. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. C'est un élément qui vient effectivement négatif de la performance de l'actif.
Et vous venez ici défendre l'immobilier coté face aux SCPI, quitte à investir dans l'immobilier à travers la pierre papier, plutôt via la bourse que via les SCPI, parce qu'on voit, les signaux de réveil effectivement dans l'immobilier coté.
Voilà, c'est tactique, hein, évidemment, vous l'avez compris. Mais il ne fallait pas en avoir ces dernières années. Il valait mieux avoir effectivement des SCPI. Encore une fois, si on veut tout liquider aujourd'hui, la question va se poser. Mais en tout cas, aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant l'immobilier coté? Après, c'est moins 40%. Parce qu'on sent qu'on est sur des planchers de valorisation. Encore une fois, la décote par rapport à la valeur d'actif est très élevée. Et on voit, ça c'est très intéressant, que un secteur qui avait déjà plongé même avant le Covid, hein, qui est l'immobilier en fait les centres commerciaux en particulier. Unibail, hein, prenons valeur emblématique, Unibail, qui en plus avait fait une acquisition retentissante aux États-Unis en pic de cycle. Et donc ce secteur-là, le marché n'en voulait pas jusqu'à présent, parce qu'il y a la concurrence de l'e-commerce. Et là, on voit qu'Unibail, hein, sur cette période-là que je mentionnais, depuis janvier 2022, l'indice fait moins 40 et Unibail fait plus 15. Parce qu'on voit qu'on était arrivé déjà sur des valeurs planchers. Et même, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, sur les actifs d'Unibail, les centres commerciaux, il y a des augmentations de loyers. Alors évidemment, il y a des clauses qui sont liées à l'inflation, donc il y a une partie qui est mécanique, mais le client peut décider de faire jouer la concurrence et de dénoncer son bail et d'aller chercher ailleurs, hein. Eh bien, c'est pas le cas. Il y a une acceptation, un taux d'acceptation des clients, des remontées de loyers qui est significative aux États-Unis dans les centres commerciaux. Et donc on peut penser qu'on a touché vraiment le fond du fond en termes de valorisation.
Alors après, sur l'immobilier coté, l'un des soucis aussi, c'est qu'on a beaucoup de pure players. Donc si ça va mal dans les centres commerciaux et que vous avez misé sur Unibail, bah, c'est un peu compliqué. Si vous misez sur les hôtels, ça peut être un peu compliqué. Enfin voilà, c'est un peu un souci aussi de l'immobilier coté. C'est que justement, alors je sais que là, en bourse, on aime les pure players. Mais en immobilier, ça peut être pas mal d'avoir plusieurs jambes.
Et les SCPI peuvent être diversifiées. Une SCPI peut proposer des bureaux, la logistique, du résidentiel dans une seule et même SCPI, par exemple.
Mais rien n'empêche, en fait, l'investisseur en bourse, de, dans son portefeuille, d'avoir différentes sociétés. Unibail, effectivement, peut être un moyen de jouer le rebond de cet immobilier commercial. On peut avoir Gecina, également, une valeur de très grande qualité, qui a une décote sur actif aujourd'hui de 50%, qui est essentiellement du bureau, et qui paye également un dividende de plus de 6%, hein, 6,5-7%. Et on peut aussi avoir, par exemple, sur le résidentiel, une société allemande comme Vonovia, qui, là aussi, traite sur 50% de décote sur son actif, et qui, aujourd'hui, est en train de vendre des actifs à leur valeur bilancielle, pas à 50% de décote, à leur valeur bilancielle, à des grandes villes comme Berlin, qui sont en demande de logements pour des logements sociaux. Donc on peut créer ce portefeuille diversifié, mais ça nécessite d'investir soi-même là-dessus.
On a un coup de fil là, c'est Yannick Lopez depuis OFI Invest AM. Bonjour Yannick. Merci d'être avec nous aujourd'hui, BFM Business. Il est 16h55. On va en profiter pour regarder à nouveau le marché. Le CAC 40 est en repli d'1%. On a une nouvelle tension obligataire. 10 ans américain est à 4,7%. Parce que la composante inflation de la croissance qui a été publiée tout à l'heure, cette composante inflation reste très ferme. Mais vous nous apportez un autre chiffre spectaculaire, Yannick, aujourd'hui, que les investisseurs doivent effectivement avoir en tête. 34 ans, en l'occurrence. De quoi s'agit-il?
34 ans, et en fait, il faut remonter à 1990, donc 34 ans en arrière, pour trouver un niveau du yen aussi faible qu'il ne l'est aujourd'hui face au dollar. Aujourd'hui, la devise nippon, elle s'échange à un peu plus de 155 yens pour un seul dollar. C'est encore une fois un gros plongeon depuis le début de l'année, hein, puisqu'on est en baisse de 10%, et ça en fait la pire performance des devises du G10. C'est vraiment spectaculaire, et en fait, vu d'avion, c'est même plutôt curieux. On pourrait, pour deux raisons, c'est curieux. Déjà, parce qu'il y a un mois, la Banque du Japon a augmenté ses taux. C'était une première depuis 17 ans. Elle n'avait pas bougé ses taux à la hausse depuis 17 ans. Et puis, une deuxième raison, c'est qu'il y a quand même pas mal de tensions géopolitiques qui, généralement, profitent quand même à la devise japonaise, qui est souvent un actif refuge. Mais en fait, c'est pas ça le problème de la faiblesse du yen. Il faut plutôt aller chercher du côté de la vigueur de l'économie américaine, et avec les chiffres que vous venez de rappeler encore à l'instant. En fait, l'économie américaine, elle surprend par sa vigueur, l'inflation surprend par sa résistance, et du coup, ça a engendré une reculade, si vous voulez, des marchés sur leurs anticipations de baisse de taux de la Fed, et donc ça a raffermi le dollar face au yen, et cette parité de change, en fait, elle est très, très corrélée au différentiel de taux d'intérêt entre les US et le Japon, donc c'est pour ça que le yen plonge.
Mais la Banque du Japon qui se réunit demain, hein, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'ils vont continuer à augmenter les taux? Alors, pour l'instant, c'est très très bas. Mais voilà, est-ce que ça peut réduire le différentiel justement avec les États-Unis?
En fait, ce serait vraiment une grosse surprise, hein, si la BOJ montait ses taux demain. Ce n'est pas du tout attendu par le marché. Le marché, il s'attend plutôt à une nouvelle hausse, soit en juillet, soit en septembre. Et encore, on parle de 10 points de base. Donc le différentiel de taux, il va pas se réduire à très court terme. Par contre, la BOJ pourrait venir un peu en aide à sa devise, notamment en préparant un peu le terrain d'une nouvelle action de raffermissement de sa politique monétaire, déjà en montant ses prévisions d'inflation, en s'exprimant aussi sur la boucle prix-salaire qui semble se dessiner, hein, se pérenniser au Japon.
D'accord.
Elle pourrait aussi avoir des propos plutôt ferme sur sa politique monétaire qu'elle va suivre, et notamment au niveau de la taille de son bilan. Elle a un bilan énorme, elle a un stock de dette japonaise colossale, elle détient plus de 50% de la dette japonaise. Tous les mois, c'est 40 milliards hein, qui tombent à échéance, et donc en gros, c'est ce qu'achète la BOJ tous les mois. Et il se murmure que la BOJ pourrait annoncer un ralentissement de ses réinvestissements, donc ça devrait plutôt aider le yen.
Face au dollar, effectivement, qui est au plus bas. 34 ans, la devise japonaise face au dollar. Merci beaucoup Yannick Lopez depuis OFI Invest AM. Ce coup d'avance que vous nous apportez intéressant. Merci pour l'alerte, effectivement, avant demain la réunion de la Banque du Japon. dans un contexte d'effet de change de plus en plus, de disparité de change de plus en plus importante. La famille, c'est terminé. Jean-Louis Dallaureau nous accompagnait, bfmbourse.com. Cet article consacré à Carrefour aussi, le titre Carrefour qui recule nettement. Effectivement, après une nouvelle baisse de ses ventes, Carrefour, c'est l'une des fortes baisses du jour à ne pas rater. L'article non plus à ne pas rater, évidemment. En plus, il y a beaucoup de détails sur le potentiel en bourse de Carrefour. Merci beaucoup Jean-Louis. Et puis Bertrand Puif qui nous accompagnait. Et tiens, pourquoi pas, va rester avec nous. Vous restez, vous nous accompagnez Bertrand.
Plaisir.
Allez, pour une demi-heure de plus, ben voilà. La team reste composée. Dans un instant, le club, on va mesurer ensemble le potentiel des marchés. Pour la suite, on reviendra aussi sur les nombreuses publications. On n'en manque pas. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.